C'est au début de notre ère que se forme le canon de la latinité classique avec Cicéron, César, Virgile, etc. Et dans leur effort pour égaler les Grecs, les Romains ont créé un classicisme littéraire dont ils font un humanisme complet, une sorte de modèle en fait éducatif et en tout cas une norme de langage. Alors cette norme ne s'impose pas encore aux élites, car c'est le grec qui reste utilisé comme langue internationale de la culture. J'ouvre une parenthèse ici, contrairement à ce qu'on pense parfois, César, en mourant, s'est exprimé en grec et non en latin, et il aurait bien dit kai sou technon et non tou koukoué. Donc c'est vraiment le grec qui reste utilisé comme langue des élites, mais cette prépondérance du grec cesse quand l'Empire se divise après Théodose en 395. Alors s'il reste dominant dans la partie orientale, le latin devient dans la partie occidentale la langue véhiculaire de tous les centres culturels qui se développent en dehors de Rome, hein, citons Milan, Carthage, Bordeaux, etc. Donc le latin, le canon du latin classique, voilà ce qu'on peut en dire très rapidement. Pendant que le latin écrit reste intact, se développe un latin dit vulgaire, donc de vulgus, hein, bien sûr, le peuple, qu'on appelle la lingua romana rustica, autrement dit, hein, langue romane, qui va prendre des formes variées et devenir donc par la suite le français, l'occitan, l'italien, l'espagnol, etc. C'est Charlemagne qui va remettre le latin au premier plan et lui redonner sa forme la plus classique. Il met ainsi le latin au rang de langue internationale indispensable pour tous les usages sociaux de l'élite, hein, que ce soit en droit, en philosophie, en médecine, en sciences, même en théologie. Il était en effet convaincu que seule l'Église était dépositaire du double héritage classique et chrétien, et c'est lui qui fit en sorte d'élever le niveau intellectuel et culturel du clergé. C'était une mesure indispensable quand on sait qu'on entendait des curés baptiser un enfant in nomine patria et filia et spiritus sancti. Donc on voit effectivement à quel point le latin avait été oublié. Donc il met le latin au rang vraiment de langue internationale indispensable, hein, et le latin est alors la langue seconde apprise à l'école comme langue vivante par toute personne désirant obtenir une position un peu élevée dans la hiérarchie sociale. Donc le latin, oui, est devenu la langue internationale des élites. Et pourtant, peu à peu, les langues nationales acquirent autonomie et prestige. J'en veux pour preuve qu'en 1539, François Ier institue le français comme langue de l'administration, alors que c'était le latin, hein, jusque-là, qui était utilisé pour tous les actes officiels et notariés. Et bien sûr, 10 ans plus tard, vous y pensez certainement, en 1549, Du Bellay écrit, hein, La défense et illustration de la langue française, dans laquelle il défend que le français, tout en restant marqué par les langues latines, doit égaler sa langue mère. J'ai reproduit ici un extrait de cette défense. Là donc, François marchait courageusement vers cette superbe cité romaine, et des serves dépouillent d'elle, comme vous avez fait plus d'une fois, orner vos temples et autels. Et par la suite, l'acquisition culturelle de l'Antiquité devient première, et la communication en latin est complètement abandonnée. Le latin devient une référence culturelle. Voilà comment on est passé du latin au français.